Ils viennent de plus en plus tôt au studio pour enregistrer Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B. C'est Roger et son Irlandais.
Voilà, c'est déjà week-end, vous pouvez nous remercier. pas de conseil de lecture aujourd'hui, je ne crois pas.
Non. Mais on va partir à Quai des Bulles.
Ouais, mais pour la dernière fois, je crois. La dernière fois, c'est fini. Pour la toute dernière fois, on sera en compagnie de Lou Luby, une autrice, qui nous vient de l'île de la Réunion. Ouais. L'île de la Réunion, on en parle un petit peu avec elle, dont on avait déjà parlé il y a très, 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 très longtemps, l'île de la Réunion, lorsqu'on parle de messieurs Apollo, quand on parle du cri du Margouilla, notamment, qui fut un temps le journal phare de la bande dessinée.
Elle y a fait paraître, effectivement, ses premier livre avant de venir en métropole, comme on dit. Hein.
Voilà. Et là, elle nous a gratifié d'un album et à la fin, il meurt. La vérité sur les contes de fées, un joli petit livre paru aux éditions Delcourt avec une publication soignée. Hein. On a le droit à un signet, le dos, c'est pas un vilain dos
des carré dorures.
Collé, ouais, des dorures qui nous rappellent, ma foi, les livres de contes de fées. Et Lou Luby a réalisé un véritable travail d'historienne. Puisque on apprend plein de choses sur l'histoire, le sens des contes, des histoires soi-disant pour enfants, la différence entre les frères Grimm, le père Perrault, etc.
Et elle nous rappelle surtout que en fait les contes ont des racines beaucoup plus sombres que ce que l'on pense. Ouais. On est très très loin du monde de Walt Disney parce que là c'est violent, il y a du sexisme, il y a du racisme. Elle nous rappelle tout ça qu'en fait le conte généralement c'est un monde sans pitié, voilà. D'où le titre. Et à la fin, il meurt. Tous les secrets cachés dans les contes de fées, en fait, nous sont révélés par une analyse, on pourrait presque dire.
Une analyse historique. Et puis, Lou Luby nous rappelle qu'effectivement, nombre d'autrices qui ont pourtant connu le succès à leur temps, à leur époque, lorsqu'elles ont publié leurs contes, ont été victimes d'invisibilisation. C'est dur à dire. Elles ont été invisibilisées sous le poids du père Perrault et des frères Grimm, et elles sont passées totalement à la trappe alors qu'elles avaient écrit de nombreux contes qui, en leur temps, ont eu du succès. Et c'est tout le mérite également du travail de Lou Luby de nous rappeler comment le travail de ces autrices a été invisibilisé au fur et à mesure du temps, pour qu'on ne garde finalement que le squelette, un squelette bien maigre quelque part.
Et bien gentillet.
Ouais, et bien gentillet des contes et légendes que l'on raconte aux enfants. Alors, contes, on va dire, hein, pas les légendes, les contes que l'on raconte aux enfants, qui est un milieu beaucoup plus riche qu'on ne pense.
Pour compléter le portrait un petit peu de Lou Luby, donc scénariste, illustratrice et coloriste sur l'ouvrage qui va être chroniqué, là, et à la fin il meurt. Il faut rappeler aussi qu'elle est la fondatrice du Forum Dessiné. Oui. C'est un site assez intéressant, communautaire, où en fait des dessinateurs d'un peu tous les niveaux réalisent, travaillent ensemble, improvisent ensemble de la BD collective. C'est plutôt une expérience assez intéressante. C'est une fille qui a du caractère, vous allez pouvoir l'entendre dans la théorie.
Mais moi ça a été, c'est parce que vous l'avez embêté avec Akira. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de manga, ah oui, Akira, voilà, vous nous sortez Akira. Et elle vous a fait les gros yeux, mon bon Erwan.
Oui,
fait les gros yeux.
M'en excuse encore une fois. Non, en fait, non. Oui, oui.
Voilà. Vous n'avez pas pu placer comme vous vouliez votre Akira, ce qui fait que ça s'entend. Hein. On entend que vous boudez pendant toute une bonne partie de l'interview. Vous faites du boudin dans votre coin. Boudin créole, peut-être.
Plaisir de faire de l'humour.
Mais qui n'a pas particulièrement plu non plus à Lou Luby. qui n'a pas dégusté, j'allais dire, qui n'a pas dégusté votre boudin, qui n'a pas apprécié votre boudin créole.
Vous vous enfoncez, mon bon Roger.
À la valeur de ce qu'il valait.
En tout cas, c'est vraiment un album très intéressant.
Ah ouais, moi j'ai adoré.
C'était une interview aussi très intéressante. C'est une nana qui a beaucoup réfléchi à ce qu'elle fait. C'était vraiment très intéressant.
Ouais, j'ai appris vraiment plein de choses. Et c'est un bon et bel ouvrage il s'est pas mal vendu. D'ailleurs, il y a eu pas mal de retours, de critiques très très positifs autour de son travail. Et moi je vous dis, c'est le côté tout ce qu'elle m'a appris concernant des autrices disparues, et puis surtout la différence entre le père Perrault et les frères Grimm. Et c'est assez marrant, c'est pas étonné, on ne serait pas étonné d'apprendre à travers la lecture de cet ouvrage que chez les Allemands, le sang coule plutôt dru plus que chez nous.
Et on ne mettra pas d'idée, des fois, il y a des juifs comme ça, là, dans les histoires.
Allez savoir.
Allez savoir.
Allez savoir.
Donc, flashback, retour encore une fois à Saint-Malo. Cette
pour
fois,
la dernière
effectivement,
fois.
Pour la dernière fois. On était le samedi et nous recevions donc Lou Luby pour « Et à la fin, il meurt », paru aux éditions Delcourt. Et bien sûr, interlude musicale avant de partir à Saint-Malo.
Why don't you sit right back and I may tell you a tale of three little pigs and a big bad wolf. One day, he bought a guitar. He moved to Hollywood to become a star. But living on the farm, he knew nothing of the city. Built his house out of straw, what a pity. Then one day, jamming on some chords, along came the wolf, knocking on his door. Little pig left me in.
By the hair of my chinny chin chin.
Little pig left me in.
scoring for you and me. They still give a listen, you just may hear the big wolf, a little piggy say, little pig, let me in. Little pig, let me in. While I'm huffing, I'm puffing, I'll blow your house in. Huffing, puffing, 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 blow your house in. Rub it in, I'm puffing, I'll blow your house in. Rub it in, I'm puffing, I'll blow your house in. Rub it in, I'm puffing, I'll blow your house in. Rub it in, I'm puffing, I'll blow your house in.
Eh bien, c'est la toute dernière rencontre que nous faisons ce midi, parce qu'il va bien falloir qu'on aille manger, nos invités aussi d'ailleurs, et nous terminons avec Lou Luby, bonjour.
Bonjour.
Qui a signé un album que nous avons chroniqué déjà il y a près d'un an, et à la fin il meurt, La sale vérité sur les contes de fées aux éditions Delcourt. Et on est ravis que vous soyez là cette année, parce que, bah, comme ce Lou, vous savez, ça, les bouquins ils tournent, et puis après, pouf pouf, on vous voit plus parce que bah, les auteurs sont déjà appelés à faire autre chose. Eh bien, on est ravis de pouvoir reparler de cet ouvrage qui nous avait fort plu. À la fin, il meurt. Vous allez nous préciser ça, une espèce d'histoire du conte, en fait, du conte pour enfants ou pas. Enfin, vous êtes la spécialiste, donc vous nous expliquerez un peu tout ça tout à l'heure. Mais comme c'est la première fois qu'on vous rencontre, eh bien, vous n'échapperez pas à notre super question originale. Comment êtes-vous tombé dans la marmite infernale de la bande dessinée?
Je suis tombée presque par accident, en fait. Quand j'étais ado, je rêvais d'être écrivaine. Mmh. Et en fait, je l'ai fait. J'ai publié mon premier roman. J'avais 18 ans et j'étais super contente. Donc, c'était un roman jeunesse.
Vous êtes précoce quand même. Hein.
Oui, c'était tôt. Bon, après, c'est pas un roman qui a eu un très grand résonnement, mais j'étais très heureuse d'avoir fait ça. Et en fait, je me suis retrouvée sur un salon du livre en dédicace. Sur un stand de l'île de la Réunion, parce que du coup c'était édité chez un éditeur réunionnais.
Oui, parce que vous étiez encore à la Réunion à l'époque.
Non, mais c'est mes racines, donc je travaillais avec la Réunion. Et donc je me retrouve sur ce stand avec un éditeur de bande dessinée qui me dit, bah voilà, moi j'ai un dessinateur, je voudrais faire un projet jeunesse de bande dessinée, est-ce que ça te dit de faire le scénario? Et je dis pourquoi pas, on verra. Et donc j'ai fait un scénario de BD, donc c'était ma première BD, c'était une commande. Et puis après j'ai eu envie de tout faire toute seule, donc je me suis mise à dessiner. Donc j'ai appris à dessiner moi un peu sur le tas. Et j'ai fait d'autres albums et petit à petit j'ai monté les marches tout doucement jusque là où j'en suis aujourd'hui.
Et est-ce que lorsque vous étiez plus jeune, vous lisiez de la bande dessinée ou vous étiez plus une lectrice de romans déjà?
Les deux.
Les deux.
J'étais à fond sur les romans de fantasy, chose qui se ressent pas encore en tout cas dans mon travail. Mais j'avais des bandes dessinées à la maison et je me souviens notamment de Blankets de Craig Thompson, qui est le premier roman graphique que j'ai lu. Et en fait, ce moment où j'ai une révélation, qu'en fait, la bande dessinée n'est pas forcément de la BD franco-belge, grand format, 48 pages. Et tout à coup, ça a changé complètement ma perspective et ça parlait d'émotion. Il y avait une grosse pagination, c'était un petit format et j'étais, complètement scotchée.
On sort aussi des lectures un peu jeunesse, enfin, les classiques, hein, Astérix et tout ça. Et les premiers chocs, vraiment... On se sent grandir, quoi.
Oui, complètement, c'est ça. C'était ma BD d'adolescence, c'est celle qui a fait basculer ma perception de la bande dessinée Blankets. Un choc.
Alors, on a aussi... Tout le monde est fiché maintenant, c'est terrible avec les réseaux sociaux, les Wikipédia et tout ça. On a vu, vous avez participé à une expérience qu'on a trouvée très curieuse, le forum dessiné.
Alors j'ai fait plus que participer, c'est moi qui l'ai inventé.
Ouais, vous avez développé. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais noté « développé ».
Ok, merci. Moins fort, monsieur, il y a des gens qui travaillent à côté.
Il y a des gens qui travaillent à côté.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette drôle d'idée?
Le forum dessiné, c'est un endroit absolument unique sur Internet. Alors, c'est un site communautaire de dessin où en fait les gens incarnent un avatar pour échanger. Donc en fait chacun a son personnage. On va venir par exemple se présenter, bonjour je suis nouvelle, et quelqu'un va copier-coller notre dessin, se rajouter à côté et répondre ben, bienvenue sur le forum dessiné. Et puis nous on va reprendre son dessin et en fait il y a un échange comme ça qui va se construire, qui est un peu du théâtre d'improvisation, un peu du cadavre exquis, mais qui en fait offre une très très grande liberté de création parce qu'on peut tout faire. Il y a des échanges libres, il y a des débats, il y a des histoires, il y a des énigmes, enfin, c'est très 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 vaste. Et on a une grosse communauté créative, donc ça fait 14 ans que ça existe. Là, on fête nos 14 ans cette année. Il y a eu plus de 2500 dessinateurs francophones qui, à la base, étaient amateurs, mais aujourd'hui, ça se professionnalise parce qu'en fait, ils grandissent avec le forum. Et en fait, c'est juste un endroit extraordinaire où on vit des choses différentes. Enfin, voilà, je suis très, très attachée à cette création.
C'est quoi l'adresse ? On fait quoi pour aller dessus ?
www.forum-dessiné.fr.
D'accord, on va noter ça et on mettra ça dans les liens de votre interview.
C'est marrant d'être la créatrice d'un univers. Il y a quelque chose de divin.
Ouais, je pense sincèrement que c'est la création dont j'ai la plus fière, bien plus que mes livres. Parce que, bon, mes livres, je suis très contente hein, de les avoir faits, mais là, il y a vraiment quelque chose de totalement inédit. En fait, il n'y a pas, d'autre chose qui ressemble à ça. C'est vraiment un site complètement unique et où les gens, auxquels les gens sont très attachés, où ils vivent des choses. On est vraiment dans du ressenti, de l'expérience vécue. Et ça, c'est exceptionnel, en fait. Donc, voilà, s'il y a des gens qui dessinent et qui nous écoutent, c'est ouvert à tous. Vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à nous rejoindre.
Et il y a des gens des quatre coins du monde, j'imagine. C'est ça aussi qui doit être
rigolo.
Oui,
alors, globalement, c'est francophone. Enfin, c'est francophone. Après, on a des personnes qui parlent le français, mais qui ne sont pas françaises. Notamment, on a des étudiantes allemandes qui pratiquent leur français avec nous sur le forum. Et on a des Canadiens. On a des gens un peu partout.
Ah oui, on parle un peu français aux quatre coins du monde, effectivement.
Mais oui,
la francophonie.
Alors, une autre de vos... Comment vous êtes décidément multicarte, vous réalisez également des jeux vidéo indépendants et vous travaillez à l'occasion pour des studios, pour des réalisations professionnelles. Vous n'arrêtez pas.
Alors ça, c'était dans ma folle jeunesse.
Vous faites plus ça.
Mon dernier jeu que j'ai développé, c'était en 2013, donc ça commence à dater un petit peu.
Quand on commence à 18 ans à sortir des romans, forcément, on a une carrière très...
Ça laisse le temps,
très...
oui, voilà, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, j'ai fait mes études dans le domaine du jeu vidéo. Et dans les premières années, après mes études, en fait, je proposais à la communauté du Forum Dessiné de faire des jeux vidéo participatifs avec moi, où en fait, je leur fournissais le cadre, je codais, je faisais la gestion de production. Et en fait, je les invitais à faire la partie créative, donc graphique, la musique, etc. Et en fait, ensemble, on faisait des jeux vidéo très atypiques, du coup, parce qu'il y avait des fois jusqu'à 100 personnes qui mettaient la main à la pâte. Donc, ça fait quelque chose de très hétéroclite. Mais moi, j'aime beaucoup la création collective. Je trouve ça très, très intéressant. Donc, ouais.
Mais à une centaine sur le même projet, c'est pas un peu anarchique quand même? Ça part dans tous les sens.
Il faut un bon chef d'orchestre.
La vache,
voilà,
oui.
C'était mon rôle.
J'avoue, là, ça ne doit pas rigoler.
Oui, oui. Elle a un petit côté démiurge,
oui,
quand même.
Oui,
non,
oui,
hein,
oui. Vous avez vu comment elle a chassé Tiburce au G tout à l'heure. Elle a dit, bon, papy, tu t'en vas maintenant. Moi, j'ai dit, purée, il va sortir son gun. Et non. Venez-en maintenant, par contre, plus sérieusement, à l'objet de votre venue à Quai des Bulles cette année, la présentation de votre ouvrage, et à la fin, il meurt, La sale vérité sur les contes de fées. Comment est née l'idée de cet ouvrage? Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser cette somme? On va dire, pour moi, c'est un bouquin d'histoire de la littérature, et en l'occurrence, la littérature, fantastique, la littérature du conte de fées. Comment vous est venue cette idée de vous exprimer là-dessus? Ça n'existait pas, ce genre d'ouvrage?
Alors, il y a des ouvrages de psychanalyse ou de folkloristes qui existent. Après, je pense que moi, ma proposition est beaucoup plus grand public, plus accessible. C'est de la bande dessinée. Et peut-être beaucoup plus synthétique. En fait, je parle vraiment de tous ces domaines. Je parle de la psychanalyse, du folklore, de tout. En fait, j'ai vraiment essayé de faire un panorama de ce qu'a été et de ce qu'est le conte. Et du coup, moi, le conte, je suis tombée dedans toute petite. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup lu de contes quand j'étais enfant. Donc, en fait, c'était quelque chose de très intuitif pour moi.
On vous en racontait des histoires? Vous aimiez bien
lisais.
Ça
Je les lisais plutôt, ouais. On m'offrait... En fait, j'avais pas les Disney. J'avais pas de cassettes. c'est à l'époque des VHS. Et du coup, je les regardais pas. Et en fait, on m'offrait plein de livres de contes, de contes de fées, de contes du monde. Donc, je les connaissais très, très bien. Mais c'était quelque chose, bon, ça faisait partie de mes références, mais c'était un peu enfoui quelque part. Et en fait, un jour, je me retrouve à une soirée avec des copains. Donc, on a tous la trentaine. Et on a une discussion de trentenaire et ça arrive sur les contes et ils commencent à me dire ouais mais les contes c'est pour les enfants, c'est tellement naïf, en gros c'est pas intéressant, c'est pas pour les adultes. Et moi mais choquée, quoi mais pas du tout. Et je commence à leur raconter en fait les versions d'origine des contes qui sont très très trash et notamment tous les contes qui se terminent mal, donc d'où le titre Et à la fin il meurt, donc c'est né ce soir là et en fait je me suis rendu compte en parlant avec eux que beaucoup d'adultes ne connaissent pas les contes, ou en tout cas ils ont une vision très conditionnée par Disney.
Édulcorée et
voilà.
Simplifiée, ouais, je suis d'accord.
Et moi, je trouve ça tellement riche, les contes, dans toute leur variété, que je me suis dit, ok, en fait, ça va m'éclater, je vais raconter tout ce que je sais aux gens, ça va faire une super BD, et moi, ça va bien me faire marrer.
Et effectivement, on ne fait pas que rigoler quand même, parce que vous évoquez, on va revenir là-dessus plus en détail, mais des choses qui sont très sérieuses, et notamment quand on pense aux contes de fées, on compte à Charles Perrault, on pense à Perrault, on pense aux frères Grimm, on pense à Andersen, et puis voilà, puis bah déjà, pouf, pas de femmes. Et l'intérêt de votre ouvrage, c'est que justement, toutes ces autrices qui ont été invisibilisées au cours de l'histoire, eh bien, vous leur redonnez vie et vous soulignez comment, effectivement, nombre de contes ont été inventés par les femmes. D'ailleurs, même la définition du conte de fées, c'est une femme qui l'a inventé, si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien lu.
Oui, c'est exact. C'est Madame d'Aulnoy qui est une contemporaine de Charles Perrault et qui écrit ses contes 6 ans avant lui. Donc, en fait, c'est la première auteure-autrice française de contes de fées. Et elle en écrit plus que lui et il s'inspire de son travail. Et en fait, là où l'oubli va se saisir de Madame d'Aulnoy et pas de Charles Perrault, c'est qu'elle écrit ses contes pour la cour. En fait, ce sont des contes pour adultes. Ils sont moins digestes à lire. Moi, personnellement, j'aime pas. Hein. Pour être tout à fait honnête, j'en ai lu certains et j'ai trouvé ça beaucoup trop. C'est très précieux. En fait, c'est dans le courant littéraire précieux. Il faut s'accrocher. Et en fait, voilà, c'est destiné à des adultes. Notamment, il y a un conte que j'évoque qui parle de mariage forcé, parce qu'elle-même en a subi un. Donc, en fait, elle le dénonce au travers de ses contes. Et c'est une démarche que Perrault n'a pas du tout, puisque Perrault, il adresse ses contes aux enfants. Et en fait, c'est ce qui fait que les contes de Perrault vont rester au travers du temps, parce qu'il y a toujours cette dimension d'éducation voilà, qui traverse les époques. Là où Madame d'Aulnoy, qui écrivait pour la cour, ben, en fait, quand il n'y a plus de cour, il n'y a plus de contes.
Et donc, du coup, vous nous racontez comment ça va évoluer. Puis, autre chose que je ne maîtrisais pas, dont j'ignorais tout, c'est la différence entre Perrault et les frères Grimm. Est-ce que vous pouvez nous dire ça en 2-3 mots? Qu'est-ce qui différencie les Perrault des frères Grimm? Vous le dites très bien dans votre ouvrage.
Tout. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont certains contes en commun.
Ouais, c'est ça.
Mais genre Cendrillon, par exemple, ou... Ah non, réponse peut-être pas. Mais voilà, ils ont quelques contes en commun. Et après, ce qui les différencie, c'est tout le reste. Déjà, c'est pas la même époque. Voilà, Perrault, c'est l'époque des fables de La Fontaine. Les frères Grimm, c'est la révolution industrielle. Donc, on n'est pas dans la même époque. La démarche n'est pas la même. Donc, Perrault, c'est un homme de bonne famille, un lettré qui écrit ses contes pour les enfants avec des moralités, donc qui est dans une démarche très littéraire. Les frères Grimm sont plus des collecteurs d'histoires parce qu'en fait ils sont au moment où Napoléon conquiert l'Allemagne et en fait ils ont une volonté de préserver leur patrimoine culturel. Donc en fait ils vont collecter des histoires à l'oral pour garder une mémoire de ça. Puis après, il y a une différence religieuse aussi, puisque Charles Perrault est catholique. Donc en fait, ses contes prônent la vertu, prônent le pardon, etc. sont voilà, très religieux, là où les frères Grimm sont protestants. Donc en fait, on a des héros qui se débrouillent beaucoup plus par eux-mêmes, qui sont beaucoup plus actifs. Et en fait, ça teinte les histoires. Quoi.
Et c'est plus trash, apparemment, d'après ce que vous dites, chez les frères Grimm, c'est un peu plus trash que chez Perrault. C'est pas le même public qui était visé, en fait.
Oui, mais Perrault, c'est très polissé. C'est très, voilà, les beaux sofas, les beaux couloirs, etc. Chez les frères Grimm, on a quelque chose de plus brut, en fait. Dans les contes, ils se terminent très, très mal. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Cendrillon, la Cendrillon de Perrault, en fait, quand le conte se termine, elle épouse le prince. prince, et ses sœurs épousent aussi des princes, il me semble, et tout va bien, elles se pardonnent, et voilà, tout le monde finit bien, alors que
chez Grimm,
voilà, les sœurs se coupent l'orteil et le talon, et elles finissent les yeux crevés.
Ouais, faut dire, elles ont fait chier aussi, elles ont fait chier, quoi. Donc,
oui, c'est mérité, complètement. Et d'ailleurs, je pense que pour le lectorat enfant, qui n'est pas forcément le lectorat visé, mais en tout cas pour les enfants, c'est beaucoup plus satisfaisant que les sœurs soient punies plutôt qu'elles soient récompensées.
Eh ouais, j'avais pas pensé à cette vision-là des choses.
Et alors, autre élément important dans votre ouvrage, je trouve, c'est l'apport de Disney ou de...
Le grand hold-up.
Ouais, le hold-up de Disney sur les contes de fées. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots un petit peu là, de ça ?
Oui, alors on reproche souvent à Disney d'avoir complètement édulcoré les contes. Et c'est vrai que les contes passés à la moulinette de Disney, surtout les trois premiers, Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au Bois dormant, ça vire quand même à la guimauve. On est dans cet archétype que va construire Disney de la princesse qui chante avec les oiseaux, qui attend le prince charmant, qui fait des tartes et qui... c'est tout.
Ça, c'est pas Blanche-Neige. Pas bon genre, apparemment.
et donc, c'est vrai qu'on peut faire ce reproche-là à Disney. Après, je suis assez nuancée sur la question pour deux raisons. D'abord, je pense que Walt Disney a sauvé les contes de fées de l'oubli. Mmh. Et que sans Disney, en fait, on n'en serait peut-être pas là à lire ce livre, à en parler, parce qu'on ne saurait juste plus. Ce seraient des histoires qui seront un peu passées à la trappe, comme toutes celles que Disney n'a pas sauvées. En fait, on les connaît beaucoup moins, les contes qui ne sont pas de Disney. Et d'autre part, je pense que Disney n'avait pas le choix que d'édulcorer, parce que le conte, à la base, c'est un récit oral, donc qui se transmet, qui fait appel à l'imaginaire. Et quand Walt Disney le met en image, en fait, ça devient tout à coup... visible. Et on peut pas représenter en image ce qui est dit dans les contes, parce que la belle-mère de Blanche-Neige, par exemple, dans la version des frères Grimm, à la fin, elle est forcée à danser sur des souliers de fer chauffés au rouge jusqu'à ce que mort s'en suive. S'ils avaient représenté ça dans le Blanche-Neige de Disney, ça aurait été cauchemardesque.
Fune, c'était la torture qui était appliquée, la question qui était appliquée dans le pays de Rennes d'où on vient. On appelait ça les chaussons soufrés. On mettait du soufre comme ça dans des chaussures en ferraille. On vous plongeait les pieds dedans et on mettait le tout sur des braises et on le faisait trois fois. C'était la question. Vous savez, suivant la région de France, la question variait. Chez nous, c'était le chausson soufré.
Sympathique.
Ouais. Erwan, peut-être.
Et donc là, on vient de soulever quelques-unes des questions qui sont dans cet album. Et en fait, donc l'ouvrage, c'est ça. Vous abordez tout un tas vous posez un thème, une question, hommes et femmes dans les contes, etc. Histoire, et vous nous expliquez tout ça.
Complètement.
Et donc, comment vous avez justement construit votre questionnement ? Est-ce que vous avez réfléchi d'abord à toutes il faut que j'aborde ça, il faut que j'aborde ça, il faut que j'aborde ça, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure ? Ça, y a eu tout un processus. J'ai parlé de ça, mais il faudrait aussi. Enfin, bref, comment vous l'avez élaboré cette sommité ?
En fait, j'ai commencé par ce qui me faisait plaisir. Je suis partie beaucoup des contes de Disney. Parce que c'est les plus connus, donc je voulais aborder La Belle au Bois dormant, Cendrillon, etc. Le premier conte que je traite, c'est Cendrillon. Et en fait, pour prendre l'exemple de Cendrillon, donc je connaissais le Cendrillon de Perrault, le Cendrillon de Grimm. Je découvre le Cendrillon de Giambattista Basile, qui est un auteur napolitain du XVIIe siècle, qui est brillantissime, qui écrit pour les adultes.
On sent que vous avez un petit faible pour celui-ci.
Ah, c'est mon chouchou.
Ça se voit.
Voilà, il est trop trop bien. Il est exceptionnel. Bref, donc je découvre son œuvre à ce moment-là parce que forcément, enfant, je ne connaissais pas. Et heureusement, parce qu'en fait, ses contes, c'est du burlesque, il y a du sexe, il y a de la violence. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et je découvre aussi qu'il existe donc la plus vieille version de Cendrillon répertoriée, qui est un conte chinois du 9e siècle. Donc moi, je suis ébahie de découvrir ça. Et en fait, à partir de là, ça me fait me poser des questions plus analytiques sur le sens, sur ce que ça véhicule comme valeur. Et en fait, dans cette bande dessinée, j'ai vraiment construit un cheminement qui part d'abord des auteurs, parce que je trouvais ça extrêmement important de remettre les contes dans leur contexte, de savoir qui les a écrits et pourquoi, parce qu'en fait, tout ce qu'on peut analyser en termes de valeur dans les contes, en fait, c'est pas les valeurs des contes qu'on regarde, c'est les valeurs des auteurs. Parce que la morale change beaucoup d'un auteur à l'autre, donc en fait, c'est super important. Ensuite, j'ai fait toute une partie peut-être plus littéraire sur la nature du conte, comment ça se construit, qu'est-ce que c'est pas. Et pour terminer, vraiment, je me suis penchée sur des questions plus de société. Donc, est-ce que c'est sexiste ? Est-ce que c'est raciste ? Il y a un conte de Grimm qui est ouvertement antisémite. Pourquoi ? Comment ? Et vraiment, d'interroger, est-ce qu'il y a des contes LGBT ? Parce que c'est une question que je me posais. Je me disais, mais quand même, c'est incroyable. Il n'y a pas de contes LGBT. C'est bizarre. Et pourquoi il n'y en a pas ? Et est-ce que vraiment il n'y en a pas ? Et donc, c'est vraiment toute cette question... de venir questionner les comptes aujourd'hui.
En fait, ça fait une espèce d'effet de boule de neige et vous avez été amené à des questionnements de plus en plus poussés, quoi.
Complètement. Et en fait, c'est ces questionnements-là qui m'intéressaient. Mais je voulais être bien certaine que n'importe quel lecteur, peu importe sa connaissance du compte, soit capable de me suivre dans ces raisonnements-là. Donc en fait, je commence vraiment à un point de départ où je suis sûre que tout le monde est tout le monde connaît. Pour certains, ça sera peut-être un peu redondant, mais peu importe, parce qu'en fait, le but, c'est de les amener, moi, là où j'ai envie de vraiment poser des questions nouvelles.
Et c'est intéressant. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que votre bande dessinée est d'autant plus d'actualité que j'ai entendu dire, alors je ne sais plus sur quelle histoire de Walt Disney, une princesse noire, une sirène noire, ça a posé tout un problème. Vous êtes
c'est ça, c'est la petite sirène de Disney, donc qui font un live action à partir de leur dessin animé.
Il y a des tas de limités du bulbe, de rats du bulbe qui se sont insurgés sur « mais une sirène, ça ne peut pas être noire !» Et ça nous renvoie un petit peu à votre chapitre sur le conte de fées est-il raciste. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça ? Une sirène, elle ne peut pas être noire ?
Alors, je pense sur cette question-là qu'il faut bien faire la différence. Je pense que le problème n'est pas qu'une sirène soit noire ou que la petite sirène soit noire, mais que Ariel, le personnage de Disney, soit noir. Je pense que ça vient de là. Parce qu'en soi, il n'y a aucun problème à ce qu'une sirène soit noire, et même si on remonte au conte d'Andersen, en fait, il est très probable qu'Andersen ait été amoureux du fils de son protecteur. Et en fait, la petite sirène est une métaphore qui le symbolise lui. Lui qui, du coup, a une queue et ne peut pas marcher parmi les humains et a cet amour impossible pour ce prince qui va épouser une femme bien réelle. Et en fait, lui, il se coupe la langue, donc ne peut pas dire son amour à ce jeune homme dont il est amoureux. Et en fait, c'est très intéressant parce que du coup, la petite sirène d'origine est probablement un homme. Donc de venir faire une polémique parce qu'elle est noire, on en est quand même à un degré qui est un peu ridicule. Après, je comprends, je cautionne pas, mais je comprends que des spectateurs s'attendent à ce qu'il y ait une certaine continuité entre le film d'animation et le film en live action. Et qu'à ce titre, une Ariel noire ne soit pas dans la continuité de l'Ariel blanche et rousse qu'on connaissait chez Disney.
En fait, c'est la rupture du continuum qui effectivement, à mon avis, interpelle aussi. Ouais, je suis d'accord.
Je pense qu'ils auraient mieux fait d'être créatifs et de faire une création complète avec une Ariel noire. Ça aurait été très bien. Enfin, une petite sirène noire.
C'est une tendance un peu d'Hollywood de reprendre des tas d'histoires et puis de féminiser ou de pas proposer d'ethniciser. D'ethniciser et pas proposer de nouveaux héros. Les États-Unis, de façon, c'est un pays très divisé, mais ça devient encore un facteur de division, en fait, ce genre de manipulation, j'ai l'impression.
Tout à fait, alors que c'est tellement mieux d'être créatif.
Mais oui, mais c'est la paresse intellectuelle quelque
tout à
part.
Fait. Alors... Oui, c'est de la rentabilité, c'est du commerce.
You couldn't possibly know how you
souligner également l'influence de la religion dans la façon dont les contes sont écrits. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de ça ? Comment la religion a influé, bah, vous l'aviez dit un petit peu tout à l'heure, entre la différence entre les frères Grimm et Perrault. De quelle autre manière ça s'est exprimé cette influence de la religion ?
Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la base, le conte en fait, est un descendant du mythe. En fait, le conte est un mythe profane quelque part dans l'historique lointain. Donc en fait, on se retrouve quand même avec des éléments qui sont tirés du mythe. Je raconte notamment dans ce livre le conte du prince Bajaja, qui est un conte tchèque. Et dans ce conte, on retrouve une pomme d'or qui roule pour sélectionner le prétendant et qui est directement inspiré du mythe de la pomme d'or dans la mythologie grecque, donc qui va déclencher la guerre de Troie. Donc en fait, la religion est omniprésente et c'est normal parce qu'en fait, nous, on vit une époque moderne qui est très athée ou très laïque, mais en fait, c'est une exception et à toutes les autres époques, il y a toujours eu la religion, faisait partie de la vie normale. Et donc, c'est normal que ça infuse au travers des auteurs. Ces valeurs-là, quoi. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec une présence de Dieu, avec le baptême de la Belle au Bois Dormant, les mariages qui se font à l'église, voilà, tous ces indices en fait qui viennent de la religion.
S'il y a des contes modernes, ils seront peut-être technologiques.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, vous analysez également la représentation des sexes dans les contes et vous présentez le conte de fées parfois comme un instrument de la domination masculine sur les femmes. De quelle manière ça s'est fait ?
Alors pareil, là, j'ai besoin de nuancer un peu. Je pense que les contes écrits par certains hommes sont effectivement très patriarcaux, voire très oppressants. Après, c'est encore une fois, chaque conte... En fait, c'est pas les contes qui... Les contes ne sont pas sexistes, voilà ce que je veux dire. Les contes ne sont absolument pas sexistes, parce que les contes sont une essence de l'humanité qui transcende un peu ce que chacun peut en faire. Par contre, chaque conteur va s'en emparer, infuser ses valeurs. Et alors là, on se retrouve avec Perrault, par exemple, qui est très moralisateur, et qui nous dit à la fin du Petit Chaperon Rouge que les belles jeunes filles font très mal d'écouter les loups et que c'est leur faute si le loup les mange. Donc on est sur quelque chose de waouh, culture du viol, bonjour. Les frères Grimm, ils sont plutôt les garçons à l'aventure et les filles à la maison. Donc on va avoir quelque chose de très 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 genré. Mais si on remonte à Gian Battista Basile, donc mon petit chouchou, qui lui pourtant qui est plus ancien, hein, mais en fait lui il a notamment un conte où on a une jeune fille qui est amoureuse d'un prince, donc c'est le prince qui est blessé et la jeune fille qui part sauver le prince et qui massacre des ogres et qui arrive et qui le sauve en fait de son enchantement. Donc en fait le sexisme dans les contes est lié aux auteurs. Ça, c'est très important de le souligner.
Alors, on parle beaucoup des thématiques, mais c'est aussi un album de bande dessinée, donc des dessins.
Oui, bah oui, bien sûr.
Ah bah quand même.
Parce que c'est plus drôle.
Bah oui. Comment vous avez abordé le dessin ? Comment vous l'avez pensé et choisi ce petit dessin faussement naïf, j'ai envie de dire ?
Je pense que c'était essentiel. Je pense que pour faire du bon humour noir, il faut que ce soit léger. En fait, les contes sont très violents. Donc en fait, j'allais pas les représenter de façon réaliste et gore parce que ça aurait été juste inutilement dégueulasse. Et que c'est beaucoup plus drôle d'avoir ce décalage en fait entre un propos qui est très adulte, très violent, et une représentation qui est beaucoup plus légère. Et du coup, dans mon travail sur cet album, moi, je venais de terminer L'Homme de la Situation aux éditions Dupuis, qui est un thriller plus franco-belge, très réaliste. Et je m'étais donnée à fond. Et en fait, j'en pouvais plus de dessiner. J'étais au bout de ma vie. Et je me suis dit, là, je vais faire quelque chose de simple. Je vais aller à l'essentiel, il n'y aura pas de décor. La couleur, donc là, c'est de la bichromie en orange et violet, donc quelque chose de très narratif, en fait, qui laisse tout de suite à faire apparaître ce qui est essentiel. Et je ne me suis pas pris la tête. Et donc, c'est des petits bonhommes qui ont des expressions exagérées, qui courent, qui s'énervent, qui s'excitent.
Un poil manga, je trouve, par moment. Justement, ah dans. Ah, si, ah un non. petit peu dans les. Dans le... Par exemple, ceux-là,
on
moi,
vous
je
a
les
dit
très
non.
Manga.
Oui, ok. Ouais.
Mais est-ce que vous lisez beaucoup de mangas ? Là est la question, parce que je pense que n'importe quel fan de manga serait choqué de vous entendre dire ça.
Moi, j'en lis pas, mais c'est lui, c'est lui qui lit du manga.
Actions, mais dans l'expressivité. Mais enfin, bon, d'accord. Ok, je ferme ma goule.
Non, mais. Alors, mais vous avez raison, faut tenter. La question sur le manga, il le fait à chaque fois. Parfois, ça marche pas. Il n'y a pas un petit peu de manga chez vous.
Autre chose qui est très intéressante, c'est que vous parlez conte et racisme, conte et sexisme, etc. Mais aussi, on apprend aussi, il y a des histoires, La Petite Sirène, je ne la connaissais pas. Alors, vous nous en donnez encore une autre explication tout à l'heure qui ne figure pas dans votre livre, par contre. Mais on apprend aussi, on connaît l'histoire de contes qu'on ne connaît pas. Vous racontez des histoires aussi, c'est ça qui est bien.
Oui, il y a à peu près la moitié de contes qui sont très connus dans Et à la fin il meurt. Et l'autre moitié, ce sont des contes que moi je connaissais de mon enfance.
Mais que nous on ne connaissait pas, des contes étrangers notamment.
Ben voilà, qui ne sont pas. Alors je reste dans le conte de fées, donc c'est une tradition européenne. Enfin, j'ai étendu jusqu'à la Russie parce que ça me semblait proche, mais le conte de fées, ce n'est pas le conte du monde. Mmh. Donc on reste là-dessus. Mais oui, j'ai des contes tchèques, des contes russes. Qui m'intéressait beaucoup et en fait moi c'est toute une culture que j'avais et dans laquelle je me suis retrouvée à puiser en fonction des thématiques. Par exemple, ce conte tchèque que je raconte, le prince Bajaja, j'y connais rien en tchèque, moi un prénom tchèque ça me parle pas, et en fait j'ai découvert là en faisant ce livre que c'était une autrice, Bochena Niemsova. Et donc je me suis dit, mais c'est très intéressant, voyons, est-ce que ça change quelque chose, que ce soit une femme plutôt qu'un homme derrière la plume, qu'est-ce que ça apporte Et en fait, je m'en étais jamais doutée, donc c'est intéressant d'aller voir les différences. Et en fait, pour résumer, c'est assez fascinant parce que ça reste un conte qui est assez sexiste, où on a un héros qui sauve des princesses, qui a le choix d'épouser celle qu'il veut, et elles n'ont pas le choix. Mais là où on sent une patte un peu plus féminine, c'est dans l'émotion. En fait, les princesses, même si ce sont des trophées, elles s'appellent ornement, gloire et je sais plus. Enfin, c'est quelque chose de très
richesse.
Très, c'est très très sexiste. Mais elles ont des émotions et en fait, on a vraiment l'autrice qui prend le temps d'explorer leurs relations de sœurs, leurs ressentis face à un mariage imposé. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas retrouvé dans un conte écrit par un homme.
Alors, on va finir aussi par l'objet. Si, une question avant toujours aussi sur le conte. À l'époque d'Internet, etc., de la télé, de l'image en permanence, quel avenir pour le conte de fées ?
Alors, le conte de fées, en fait, évolue avec son temps. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu une matière première pour des choses qui ne sont plus des contes. On a des films, des séries télé, etc. Et en fait, ce ne sont plus des contes parce qu'ils ne sont plus dans les codes du conte. Donc, ils se servent d'une culture, de qu'on a en commun et qui est un peu intuitif pour tout le monde. Mais ça s'adapte. Après, on a toujours des contes qui sont écrits, que ce soit des réécritures dans la tradition orale ou des nouveaux contes. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on les adresse exclusivement à la jeunesse. En fait, des livres de contes dans les rayons adultes, ça n'existe plus. Ce qui est très dommage parce que le conte est une matière très riche pour les adultes aussi, mais si vous allez dans une librairie jeunesse, du conte, il y en a plein, et il y en a autant du traditionnel que du nouveau. Donc je pense que le conte va... Mais en fait, ça fait partie de l'humanité, on est fait de contes, donc ça ne peut pas disparaître.
Alors, on va terminer du coup comment par l'objet, un très très bel objet. Donc on a dit bord de page doré, petit signet, etc. Belle couverture cartonnée dure. Comment vous avez négocié ça avec Monsieur Delcourt ? Vous saviez des choses ? Vous saviez où ses enfants vont à l'école ? Vous lui avez fait peur ?
Non, j'ai fait mes grands yeux de biche. Non. En fait, je suis arrivée, on avait une réunion de fabrication à laquelle j'ai eu la chance d'être conviée, parce que les auteurs ne sont pas forcément impliqués dans le processus de fabrication. Moi, j'ai vraiment là une très belle relation avec les éditeurs, donc c'est chouette. Et donc, j'ai été conviée. En fait, je leur ai fait part de mes souhaits et je leur ai dit que quand même, sur un livre de contes, ce serait super que ce soit doré, que ça brille, qu'il y ait une belle couverture cartonnée... etc., etc. Et je leur ai demandé, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible dans un budget raisonnable ? Parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire un truc à 50 euros inabordable. Et non seulement ils ont dit oui, mais en plus ils ont dit, on va rajouter un signet. Voilà.
Ah, le signet,
donc,
c'est
en fait,
trop bien.
Ils ont été super partants, ils ont fait un effort aussi sur le prix pour avoir un livre qui reste abordable. Et au final, c'est un objet qui s'offre facilement, qui est... voilà, qui fait plaisir et c'est super parce que je voulais que ce soit beau aussi, que ça fasse plaisir.
Et puis le signet n'est pas superflu, hein, comme soulignait Erwan, c'est quand même un ouvrage assez copieux, on le lit pas en une soirée, donc c'est quand même bien de laisser un marque-tapage.
Oui,
même.
on n'est pas dans un processus narratif là, on est dans une analyse, donc il faut des fois laisser infuser. Laisser infuser la chose.
La question fil rouge, vous n'échapperez pas non plus à la question fil rouge qu'on a posée à tous les auteurs et et autrice que nous avons rencontrée ce week-end, à savoir de nous présenter la couverture de leur album de bande dessinée.
Et de nous dire jusqu'à quel point il y a du manga dans celle-ci.
Alors, il n'y a pas de manga. Je lisais pas de manga, donc en fait, c'est mort. Je peux pas être influencée par un truc que j'ai jamais lu.
Alors ?
Voilà. Non, donc c'est une couverture verte et dorée.
Pourquoi le vert ?
Pourquoi le vert ? Parce que, donc en fait, il y a un médaillon au centre qui reprend les couvertures de l'intérieur du livre, donc qui est orange et violet, et sur lequel on retrouve quatre personnages qui sont pas des personnages en plus du livre, qui sont plus des métaphores, mais on a une princesse manchotte, un prince avec les yeux crevés, donc il y a le prince de réponse. On a un petit chaperon rouge qui porte des os et de la chair de sa grand-mère dans son panier, et un nain, parce que pourquoi pas un nain. Et en fait, le vert était une couleur qui venait enrober, voilà, faire un contrepoint à ces couleurs-là, et qui a un côté un peu grimoire aussi ancien. Alors, on s'est posé la question, ça aurait pu être du rouge aussi, mais le rouge est un peu trop classique, donc le vert, il y avait quelque chose d'un peu plus culotté, un peu plus dans l'air du temps.
Le rouge aurait pu être pas mal aussi, à mesure que vous vous rappelez, ça fait penser à ces bouquins de Jules Verne, les éditions.
Tout à fait, tout à fait.
Ça aurait pu être...
Donc un peu classique, voilà.
Ouais.
Et donc voilà, donc on a des petites dorures, des petits médaillons. J'ai passé un temps fou à dessiner ça, vous pouvez pas imaginer.
Alors dans les petits médaillons, on a une pomme, une grenouille, une rose et une couronne.
Tout à fait.
Des objets qu'on associe au conte.
Et des petites arabesques, tout à fait, voilà. Donc voilà, un chouette travail sur cette couverture qui a pris pas mal de temps, mais qui au final retranscrit bien ce que j'espérais donner comme émotion, qui est vraiment, voilà, c'est un vieux livre de contes, c'est un vieux grimoire, et en même temps c'est très moderne parce que les personnages ne sont pas du manga, mais...
Ah bon ?
Mais voilà, mais sont modernes.
Une dernière question, c'est quoi vos projets dans la bande dessinée ou dans le roman, qui sait, je ne sais pas, puisque vous avez l'air d'être quand même multicarte, multipasse.
Non, alors je continue dans la bande dessinée, surtout que j'ai la chance d'être accompagnée, très bien accompagnée par les éditions Delcourt, donc en fait je continue à travailler avec eux. J'ai deux projets en ce moment en même temps. Un que je mène en solo et donc qui sortira à la rentrée 2023. Donc c'est encore un peu loin. Et l'autre qui en prend encore plus longtemps et sur lequel je travaille avec une dessinatrice. Donc là, on est sur un projet avec univers, quelque chose de très très beau parce qu'elle a un coup de crayon fabuleux.
Et vous pouvez nous donner le nom peut-être qu'on la connaît donc.
Non, alors elle s'appelle Solène Guyon-Verne. C'est son premier album. Elle est jeune hein, et elle a un talent incroyable. Et moi, je voulais... c'est une histoire que je traîne depuis 15 ans. Donc, qui est une histoire de mon adolescence, qui se passe dans un univers un peu onirique, un peu merveilleux. Et je voulais quelque chose avec des belles lumières, avec des ambiances. On est dans une ville tout en papier, donc quelque chose de très symbolique aussi. Voilà. Et en fait, moi, avec mon dessin très minimaliste et très humoristique, ça ne marche pas. Donc, j'ai rencontré Solène et je me sens très, très chanceuse de travailler avec elle. Et donc, celui-là, il va sortir en 2024. Donc, il va falloir être un peu patient.
Yep, mais c'est pas grave, Erwan lira des mangas pendant ce temps-là.
Des quoi ?
On vous remercie, Madame Louloubi, en tout cas, d'être venue avec nous. On est bien content parce qu'on ne pensait pas pouvoir vous rencontrer cette année.
Merci à vous.
Au revoir.
Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red Riding Hood. I don't think little big girls should go walking in these spooky old woods alone. Just to see that you don't get chased, I think I ought to walk with you far away. What full lips you have, they're sure to lure someone bad. So until you get to Grandma's place, I think you ought to walk with me and be safe. I'm gonna keep my sheep suit on,
until I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh, Little Red Riding Hood, I'd like to hold you if I could, but you might think I'm a big bad wolf, so I won't.
Voilà, vous avez pu profiter de l'interview que nous avions réalisée donc à Saint-Malo, version 2022. Nous avons rencontré donc Lou Luby, femme de caractère.
Elle n'a pas été dupe de votre vilain Akira, et puis c'est tout.
Titieux.
On vous entend bougeonner, on vous entend bougeonner. Mmh, Akira, mmh, c'est très bien Akira, et puis voilà.
Elle nous proposait donc notamment, et à la fin il meurt, un excellent album qui doit pouvoir se trouver encore chez certains libraires, s'ils ne sont pas trop grognons, ouais, hein, vous leur demandez gentiment. Paru aux éditions Dulcourt. Et ben on se retrouve la semaine prochaine pour une émission pleine de chroniques cette fois-ci. Bonne lecture Roger.
Oui, tant qu'on a le droit.
Et puis je suis inquiet, j'ai pas vu Bertrand cette session-ci, je suis inquiet.
Parce qu'on n'est peut-être pas le même jour, allez savoir. Peut-être qu'il ne martyrise pas notre ami Yann tous les jours. Peut-être que Yann a réussi à obtenir que certains jours Bertrand lui fiche la paix, allez savoir.
Ouais, allez savoir. À la semaine prochaine.
Yes.